Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Ce matin, nous allons aborder une petite étude biblique. Alors c'est simple, hein. Très intimiste, et chacun peut se reconnaître. Je vais vous poser une question. Vous le savez, nous sommes, en tant qu'êtres créés par Dieu, composés d'un corps, d'accord ? C'est ce qui nous permet de nous reconnaître les uns et les autres, hein, heureusement, avec des traits particuliers, très physiques. Et puis, nous disposons, et ça, nous ne le voyons pas, les autres ne le voient pas en tous les cas, nous disposons d'une âme. C'est ce qui nous permet de, finalement, nous identifier, ou d'être identifiés, de notre personnalité, et puis bien d'autres choses qui l'accompagnent. Mais ça, ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, il y a une autre dimension chez l'homme, en général, c'est l'esprit. Mais pour nous, chrétiens, il y a quelque chose de beaucoup plus précis, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Je ne dis pas seulement avec nous, s'il était à l'extérieur, mais il est dans notre corps, le temple du Saint-Esprit. Il est aussi dans la gérance de notre âme. Et puis il y a cette dimension qui nous met en relation avec le monde spirituel, le monde physique, le monde occulte, ça va ? Et le monde divin. Donc il y a cette superposition, et c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions nous reconnaître les uns et les autres. Vous savez que dans la Bible, il est parlé souvent de l'âme humaine. Et je titrerai mon message que gendarme de l'âme nommée conscience. Voilà. Ça vous dit quelque chose ? Oui, vous avez des gendarmes. On va en toucher deux mots. Vous n'avez pas peur des gendarmes. Vous êtes en règle. Bon, vous viendrez me voir à la fin et puis on contrôlera vos papiers. Hein ? Gendarme de l'âme nommée conscience. Qu'est-ce que cela veut dire ? La Bible en parle. Et c'est intéressant de pouvoir approfondir, et lorsque vous partirez, lorsque moi j'ai préparé cette étude, je me dis, c'est bien moi. Voilà. Parce que on ne se connaît pas d'ailleurs, de toute façon. On ne se connaît pas vraiment, les autres nous connaissent quelquefois beaucoup mieux que nous nous connaissons. Ça c'est vrai. Alors il y a diverses applications des carrières touchant au service de l'ordre. Mettez un petit peu les choses dans l'ordre, dans la bonne perspective. Donc, touchant au service de l'ordre, il y a les gendarmes, vous savez, les messieurs avec les copies qui se cachent dans les buissons, là. Attention, hein. Et puis, ça, c'est l'armée, hein, c'est l'armée intérieure. Hein. Après, il y a les soldats, naturellement, pour autre chose. Il y a la police, c'est aussi un service d'ordre. Eh oui. Ils sont nécessaires, ils sont indispensables dans toutes les sociétés. Et puis il y a toutes les autorités, avec uniforme ou non, hein, autorités chargées de la vie publique. Alors on peut les multiplier, bien sûr. Hein. Il y a ce que l'on appelait dans le temps les agents ou les gardiens de la paix. Ça, c'est important d'associer ça avec le mot conscience. Gardiens de la paix. Je vous dirais, pour prolonger un petit peu cette situation, il y a naturellement dans la Bible, qui est le livre qui fait connaître ce qui est bien et bon et ce qui ne l'est pas. Dès que nous ouvrons, en quelque sorte, le livre de la Genèse, on tombe dessus. Hein. Ce n'est pas la peine de tourner 50 chapitres, on le voit tout de suite, quelque part. Dès le Jardin d'Éden, naturellement, prise de conscience d'une réalité. Alors je dirais que la conscience, elle, est claire. Je vais faire une chose simple. Elle oriente. Elle simule notre boussole intérieure, nord, sud, est, ouest, voilà. Hein, et vous avez la météo parfaite là, hein, comme vous voulez. Ce qu'on appelle donc la conscience. Elle ne se voit pas, mais elle est là. Et Dieu a doté l'homme, sa création, de sa créature, en tous les cas humaine, de la conscience. Et figurez-vous que cette conscience fait office de gendarme, ou de policier, de gardien de la paix, de police, toutes sortes de choses qui sont une association finalement de pensées. La conscience nous interpelle en tas de transgressions. Il y a des gens qui ont tordu le cou de la conscience. Bien, mal, etc., ça n'existe pas. Mais quand même, même chez les gens qui ne croient pas en Dieu, il y a aussi, eh bien, cet organe, on pourrait dire. Hein. Et nous voyons que, eh bien, elle nous interpelle. Elle maintient la protection des personnes. Eh oui, elle peut nous parler soudainement, à un moment ou à un autre, pour nous dire « ne fais pas ça, il y a danger, il y a risque, etc. » La conscience humaine, figurez-vous, est formatée et elle fonctionne avec l'instinct. Les animaux aussi, hein, naturellement. Ça, vous sont les limites. Hein. Quelquefois, nous ne le savons pas, nous. Hein. Et même avec des avertissements, bien, quelquefois, nous passons outre. Et puis, nous récoltons ce que nous avons semé et on se plaint des autres. Hein, parce qu'on se défausse. Et puis on dit, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Et puis on peut tout autant lui obéir, se soumettre à cette conscience, ou alors tout simplement l'ignorer. Oui, ma conscience me dit, mais moi je fais ce que je veux. C'est ainsi, parce que je suis libre. Ah oui, le mot liberté, c'est terrible. Hein. Enfin, c'est terrible, et c'est quelque chose, une valeur inestimable aussi. Hein. Alors, on peut la faire taire. On peut lui dire, eh bien écoute, moi j'ai pas envie d'écouter parce que ça me plaît, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est véritablement, je crois, ce qui est bon. Et son caractère de petit gendarme, voilà, hein, je l'ai appelé comme ça, donc son caractère de petit gendarme est tantôt intransigeant et légaliste. La loi, c'est la loi, ça c'est l'Ancien Testament, ou alors c'est le contraire, hein, c'est-à-dire que tout ça c'est variable, c'est élastique, quelles que soient les actions de la conscience, et bien là, les actions de cette conscience, ces sensibilités, il y a des gens qui ont une conscience beaucoup plus sensible, et qui quelquefois tremblent, même quand c'est bien. Ah oui, ils se auto-culpabilisent, ils se rendent malades, ils sont là, et bien là, à perdre le sommeil, toutes sortes de choses. Et nous voyons que ça s'appelle les sensibilités de la conscience, ou alors de ses erreurs. On passe. Ou alors, véritablement, ça va nous mettre par terre. Ou on exagère avec tout ça. Elle doit être accompagnée d'un chef supérieur de commandement, parce que c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et ce chef supérieur de commandement, il est intègre et il est parfait. C'est le Saint-Esprit en nous.
Amen, amen.
Au-dessus. Vous savez, on est des terrestres. Enfin bon, je pense qu'il n'y a pas de... d'extraterrestres au milieu de nous, parce qu'apparemment on se ressemble et on a à peu près les mêmes habitudes, d'accord, hein. Bon, alors, il y a naturellement eh bien, cette conduite, et je crois que nous devons considérer les choses comme une pyramide, en quelque sorte. Ça veut dire que souvent nous faisons partir du bas, parce que c'est notre corps, l'âme au milieu, c'est déjà un petit peu plus étroit, et au bout, ça vient d'en haut. C'est le Saint-Esprit. Et je crois que là, c'est intéressant quand même de dire quelques mots sur ce chef supérieur de commandement, parce que ça doit venir d'en haut et ça doit rayonner au milieu, l'âme, et en bas, dans la partie, on pourrait dire, la plus large, parce que c'est là où on a vraiment la vie, c'est la vie animée, on pourrait dire. Alors, c'est un peu un schéma que je suis en train de faire devant vous. Parce que le Saint-Esprit, il est saint, il est intègre, il est parfait, et c'est véritablement notre idéal. L'idéal de tout homme qui connaît Dieu, qui véritablement découvre Dieu, à travers la nouvelle naissance, à travers eh bien, une vie nouvelle. Dieu nous a créés avec un matériellement, physiquement, avec une personnalité, une identité qui s'appelle l'âme, et puis il nous a dotés du Saint-Esprit. Et là, c'est notre recours. c'est notre référence. C'est celui qui va nous conduire, c'est notre chef. Et ça doit redescendre pour maîtriser l'âme et maîtriser le corps. Ça va comme ça ? Bon. Alors, la conscience des hommes est de nous avertir du mal. Genèse, chapitre 2, tout est bon. Et chapitre 3, tout est mauvais. Enfin, c'est l'effondrement. Où c'est finalement ni le blanc ni le noir, c'est le gris. Et c'est dans cette vie-là que nous sommes. Hein. C'est dans cette conception que nous sommes. Alors, l'Esprit de Dieu en nous, comme nous l'avons signalé, et ces divers degrés, finalement, eh bien, de ce que représente ce que nous venons de dire, nous poussent à la culpabilité lorsqu'il y a des choses que l'on appelle le péché. Alors le péché, ce n'est pas ce que je peux m'imaginer avoir fait en mal seulement. Mais c'est le Saint-Esprit qui me convainc de péché, de réalité de péché. Et puis il y a toujours une opportunité de demander pardon et de continuer à vivre. Amen. Il y en a qui s'arrêtent en cours de route. Hein. Ils se disent, ben, moi j'ai péché, je suis perdu. Alors ça, c'est pas... Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ pour ceux qui sont dans l'Esprit de Christ.
Amen. Amen.
Ça, il faut quand même le souligner. Donc, cela pousse l'homme à la culpabilité. Et nous avons justement peut-être le danger, c'est à y veiller et à ne pas repousser les paroles du Saint-Esprit, les avertissements du Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit. Et naturellement, si nous voulons l'ignorer, eh bien, ça débouche, c'est manifester notre préférence au mal plutôt qu'au bien. Le choix, c'est le libre arbitre, comme la parole finalement nous le dit. Mais nous sommes libres de tout. Nous sommes libres de faire du bien, mais nous sommes libres autant de faire du mal. Et là, lorsque nous sommes poussés à faire du mal, c'est qu'il y a là, finalement, de la convoitise et de la tentation auquel nous cédons. Et nous pouvons partir dans un sens ou dans un autre. Alors, ça, ce sont les manifestations. Le mal absolu, c'est tout simplement ce que nous enseigne le Nouveau Testament, et Jésus est venu pour nous le dire, c'est l'incrédulité. Voilà. Incrédulité, je ne crois pas en Dieu. Incrédulité, je ne crois pas au bien. Je ne crois pas... De toute façon, le bien, on le prend parce que c'est, ça peut nous rapporter toujours quelque chose. Mais je ne crois pas au mal. Je ne crois pas que le mal existe. Alors, regardez autour de nous et puis vous comprendrez tout de suite, rapidement, que le mal, eh bien, il est là, omniprésent. Le mal absolu, c'est l'incrédulité. Et cette incrédulité, Jésus l'a sanctionnée. C'est le péché des péchés ajouté à l'orgueil de l'homme. Eh bien, c'est une forme de révolte et d'opposition à Christ qui est l'image des perfections divines de justice et de vérité. Alors, j'ai campé un peu, c'était une introduction. Un petit peu les choses pour que nous les situions. On va passer maintenant aux commentaires et à l'application. Dans la Bible, il est parlé des œuvres mortes, conscience des œuvres mortes. J'aimerais justement, pour illustrer ce petit paragraphe, eh bien, vous dire que Dieu est vivant. Et que Dieu est vivant, et qu'il y a des œuvres qui sont mortes et qui font mourir, qui ne servent à rien. Œuvres mortes, ça veut dire, eh bien, des œuvres qui, là, finalement, n'ont aucun sens. Et nous sommes invités, et je vais lire le texte, à nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, c'est-à-dire c'est le contraire de l'incrédulité, et cela nous amène et peut nous amener à la mauvaise conscience. Qui est à laisser au vestiaire. Vous comprenez ce que je veux dire ? La mauvaise conscience, c'est Dieu qui va nous montrer, c'est Dieu qui va nous enseigner, c'est Dieu qui va nous éduquer, c'est Dieu qui va nous équiper à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit organe. C'est peut-être pas le mot approprié, mais toujours est-il ce que Dieu a mis au fond de nous-mêmes pour que nous puissions nous diriger et que nous soyons bien réglés dans notre vie. Et dans Hébreu, alors là, on va lire un texte très rapide. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 14, il est dit ceci, et c'est une affirmation, parce que nous sommes chrétiens, il nous est dit combien plus le sang de Jésus-Christ, nous avons été lavés par le sang de Jésus. Je le crois, je fais foi à cette parole. Alors, aujourd'hui, je suis une nouvelle créature, et le Saint-Esprit doit finalement être le maître dans ma vie. Hein. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, nous sommes promis, finalement, eh bien, une vie qui n'aura pas de fin. Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il, à cause de cela, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le but, l'objectif, c'est véritablement d'être non pas des saints sur la terre, on y sera de l'autre côté, mais de hâter notre sanctification tous les jours de notre vie jusqu'au moment où on partira pour l'au-delà. Ouais. Afin que vous serviez le Dieu vivant, et nous le servons avec une bonne conscience et pas avec une mauvaise conscience. Et vous me direz, mais c'est pas possible, un chrétien, il ne peut avoir qu'une bonne conscience. C'est une autre affaire, hein. C'est encore à démontrer tout ça. Hein. On a entendu une prophétie, ou deux prophéties, qui nous parlaient finalement, eh bien, il y a des choses qu'il faut faire attention parce qu'elles vont nous corrompre, elles vont nous dénaturer. On peut avoir fait une belle expérience d'origine, hein, de conversion, et puis finalement, eh bien, ne plus vouloir écouter ni la parole de Dieu qui nous parle en la lisant, ni finalement notre conscience qui nous dit, voilà, à l'aide de la parole de Dieu qui te guide, attention de ne pas sortir du chemin. Attention au monde, attention ceci et cela, mais pas dans un esprit légaliste. Parce que si j'obéis à Dieu parce que j'ai peur, alors à ce moment-là, c'est plus l'amour. Alors que le Nouveau Testament nous dit, bah, tu obéis, mais tu obéis dans l'amour. Et là, il n'y a que Dieu qui peut changer notre cœur, parce que c'est une autre affaire. Alors, encore un autre petit texte, chapitre 10 de Hébreux, verset 22. Il nous est donné cette opportunité et cette invitation. Il nous est dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Ouais, l'œuvre du Saint-Esprit qui rend l'authenticité, la véracité finalement, eh bien, d'un cœur qui aime le bien. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous avez remarqué avec moi la plénitude de la foi. Nous avons besoin de grandir et plus nous grandissons dans la foi, plus finalement notre conscience, eh bien, véritablement nous la captons et nous la comprenons et nous lui obéissons. On n'est pas des êtres errants, nous avons une connaissance, nous avons une conduite, mais il faut savoir trouver finalement le chemin et le chemin nous sera montré. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Eh oui. C'est pas facile de vivre avec une mauvaise conscience. Il y a des gens, et même des chrétiens, qui prennent le bien pour le mal et le mal pour le bien. Et ils sont en train de traîner leur pauvre vie, leur pauvre âme qui souffre et qui soupire, alors que quelque part, et ça c'est la religion qui a fait ça, la culpabilité de la religion, et qui sont là en train de traîner leur misère et leurs oripeaux de misère, quelque part, parce que finalement ils ont cru à certains mensonges sous le couvert de la religion, où la religion a dit « ne faites pas ceci, ne faites pas cela, etc., etc., ne prends pas, ne goûte pas » et tout le reste, alors là on ne vit pas. Hein. Alors que quelque part, eh bien, il y en a un qui exploite ce genre de culpabilité, c'est le diable, c'est les mauvais esprits. Et ils font que le chrétien qui n'a pas compris, eh bien, l'essentiel de ce que nous sommes en train d'étudier, eh bien, finalement, sera toujours malheureux, il ne pourra plus chanter, il ne pourra plus louer, il sera pas, il perdra sa saveur, il perdra son sel, il perdra sa lumière, il perdra peut-être tant de choses, parce qu'il va s'auto-accuser, ou l'adversaire va s'inviter pour essayer de le rendre le plus malheureux possible, et il pourra peut-être lui susurrer, « Ah, c'est ça être chrétien ?» Bah, dis donc, c'est pas une réussite. Hein. Non, être chrétien, c'est dans la joie, être dans la joie du Saint-Esprit. C'est être heureux, rendre les autres heureux, et dans l'amour aussi. Ça, c'est important. Alors, je voudrais faire un petit exposé de mécanique maintenant. Je ne suis pas mécanicien, hein. Ce que vous me demandez de monter, de démonter un moteur de voiture, je le démonte, mais je ne peux plus le remonter. Hein. Ça, c'est clair. Alors, on va faire, c'est une image, mais très simple, elle est puérile, hein, même, on pourrait dire comme ça. La conscience et son fonctionnement de la conscience pourraient être comparés au système mécanique que l'on appelle le différentiel. Vous avez peut-être entendu parler, moi je ne sais pas quelles sont vos connaissances en mécanique, mais bon, moi je ne connais pas grand-chose. Mais pour expliquer qu'il y a là, dans les voitures, dans les moteurs de voitures, eh bien, donc ce système de différentiel qui fait office d'équilibrage fonctionnel de distribution entre la répartition entre le moteur et les roues et puis d'autres organes de la voiture. C'est comme la thyroïde, ça. Alors, je peux vous en parler, parce que je connais ça depuis un petit bout de temps. Hein. Et la thyroïde, elle gère, eh bien là, toutes les organes. Je crois que le médecin m'avait dit 17 à 20 organes, le foie, et puis les choses psychologiques aussi. Hein. Je veux dire, ça peut vous mettre en dépression, mais alors complètement par terre, hein, quand ça fonctionne mal. Alors moi, j'ai mon bonbon tous les jours, hein, pour reprendre un peu les forces. Et c'est un différentiel, c'est vrai. Mais quand ça fonctionne plus, misère, moi je sais que j'ai des frères et des sœurs ici qui savent ce que c'est que les problèmes de thyroïde. Hein. Ah oui, eh ben je peux vous dire que vous vivez pas heureux. Hein. Ça c'est clair, un jour ça va, un jour ça va pas. C'est pas ici, c'est pas là, etc. Il y a le foie, il y a les intestins et tout ça. Mais c'est terrible ça. Hein. Et c'est comme dans une voiture. La voiture, elle est faite de plusieurs organes et tout ça doit fonctionner ensemble. Et ça doit être véritablement, eh bien là, quelque chose de... Je dirais que, pour aller prolonger un peu mon étude mécanique, je pourrais dire que quelque part, c'est comme dans vos voitures modernes, vous avez des limiteurs de vitesse, vous avez également des régulateurs de vitesse, vous avez des avertisseurs qui vous disent, voilà, il y a ceci, tel problème, etc. Alors quand on suit tout ça, c'est un voyage confortable, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Et la conscience morale est un dispositif essentiel dont la particularité c'est le choix, c'est un choix et être en bon état, ou le fonctionnement est en bon état ou mauvais. Voilà, parce que ça peut véritablement faire défaut tout ça. Et la conscience, c'est ça. Et Dieu nous l'a donné pour que nous savions, nous sachions de quoi nous sommes composés et comment nous allons gérer finalement ce que Dieu nous a donné pour vivre heureux. Pas malheureux, comprenez, heureux. Alors c'est peut-être un peu compliqué, mais bon, tout ça, ça fait partie des... de mes pauvres explications. J'espère que vous allez vous reconnaître. Hein. Dans Hébreux 10, chapitre 22, je reviens à ce texte. « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et lavé d'une eau pure. » Vous savez, il y a une expression dans notre langage, dans notre langue, où il est question... en notre âme et conscience, pour essayer de pouvoir, eh bien là, c'est une profession de foi, ça, en quelque sorte, une déclaration, en tous les cas, en votre âme et conscience, ou tout simplement lorsque nous nous apprêtons à juger ou à donner une appréciation. Je le fais non pas parce que je suis influencé de droite et de gauche, mais parce que je le fais en moi-même, avec le conseil que me donne la parole de Dieu, la parole que Dieu m'a donnée, ou tout simplement, eh bien là, ce que la conscience que Dieu m'a doté, eh bien, me conduise à choisir le bien, le bon, ce qui est juste. Je voudrais donner donc également eh bien, des synonymes à tout ça. La conscience, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté. C'est l'intégrité morale. Ouais, c'est ça. Synonyme de bienséance, de bienveillance, d'une foi saine, de dignité, de droiture, de loyauté, de rectitude, de probité. J'ai étendu un peu les choses parce que c'est ça. C'est ça ce que nous avons besoin. Et je crois que nous avons besoin, nous, non pas parce que nous sommes des êtres supérieurs, nous n'avons aucune supériorité aux autres. Hein. Nous ne prétendons pas avoir seulement la vérité à nous seuls. Hein. Pas du tout. Hein. Parce que Dieu a fait la diversité dans le monde. Hein. On connaît que finalement, eh bien, là, notre petit monde, hein, on voit le monde qu'avec un trou de palissade, vous voyez, on voit très très peu. Hein. Mais néanmoins, Dieu nous parle à nous aussi. Hein. Mais ça se déploie dans toutes ces qualités que nous avons eues. On pourrait les mettre tout simplement en parallèle avec les fruits de l'esprit. Hein. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienséance, la maîtrise de soi, etc., etc. Le problème est celui-ci, c'est que nous vivons dans un monde où la malhonnêteté progresse. Je ne veux pas dire que tout est noir. Il y a du bien dans le monde, c'est vrai. Et il y a des gens de bien. Il y a des gens qui sont des gens de lumière. Il y a des gens qui sont des gens qui portent l'amour autour d'eux et tout cela. Ça, c'est normalement, ça devrait être la normalité. Mais nous voyons qu'à partir de ce raisonnement, ce problème de malhonnêteté où nous trouvons autour de nous, dans tout notre environnement, ça peut nous atteindre nous-mêmes, la fausseté en tout genre et être honnête dans les petites choses nous dispose à être honnête dans les grandes. C'est puéril, mais c'est comme ça. c'est vrai. Et quand véritablement, eh bien là, faut commencer par le petit. Hein. D'ailleurs, dans la Bible, tout commence par le petit. Jésus, un peuple Israël, le monde entier, tout est comme ça. La petite graine, qu'elle soit ivrée ou qu'elle soit bonne semence, tout commence par le petit et ça se développe. Nous sommes appelés à nous développer et nous avons besoin de nous développer dans une bonne conscience. Ça, c'est essentiel. On vit dans un monde de demi-vérité et avec des mensonges de complaisance ou par commodité, à travers nous frayer un chemin à travers les infractions dissimulées, à travers des codes moraux qui nous sont propres mais qui ne sont pas bibliques, toutes sortes de choses, l'absence de distinction entre liberté et licence. Eh oui, aujourd'hui nous vivons dans un monde où le monde est... Je ne fais pas de morale, hein, pas du tout, hein. Chacun vit comme il veut. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on parle tellement de liberté que ce n'est plus de la liberté, c'est de l'esclavage, la licence. Ouais. Dans le psaume 51... Ça vous rappelle quelque chose, le psaume 51 ? Eh oui, mon ami David. Je dis mon ami parce qu'il était l'ami de Dieu, et moi je voudrais bien être ami de David aussi. Hein. Voilà. Alors, écoutez bien ce qu'il dit, notre David. Il parle à Dieu, il prie Dieu, il dit « Mais Dieu, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Ça, c'est une prière que nous pouvons faire monter tous les jours devant le Seigneur. On ne sait pas ce que chaque jour nous réserve. Et on connaît souvent, on ne connaît pas nos faiblesses. Parce qu'il y en a un qui s'occupe de nous pour essayer de nous dénaturer, hein, de toute manière. Dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 25, alors il est dit cette parole... que je retrouve tout simplement le texte. Donc, Éphésiens, c'est ça, hein, c'est le mot que... Alors, Éphésiens, chapitre 4, verset 25, et là, c'est pratique. Hein. C'est pourquoi, Paul dit, c'est pourquoi renoncer aux mensonges. Alors, ça nous donne un petit état de... un des choses qui sont quelquefois préjudiciables, qui nous sont préjudiciables, où là, notre conscience doit finalement être... Et bien vivante, hein. Hein, comme notre président de la République parlait dernièrement, quand il parlait de l'OTAN, qu'elle était en mort cérébrale, là elle est réveillée, hein, aujourd'hui, hein. Et on se demande comment on va faire. Eh bien oui, mais quelquefois c'est ça, hein. Notre conscience est en mort cérébrale. Alors, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres, mais oui, nous ne sommes pas des étrangers les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ça vous arrive jamais, je précise quand même, je crois, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne déronne plus, vous savez ce que ça veut dire, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui a le besoin. Que ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais au lieu de ça, toute bonne parole qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent, parce que, et le diable, et Dieu va nous donner véritablement la confirmation, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Scellés pour le jour de la rédemption. Et Dieu nous a donné tout ce qui convient à la vie, à la piété, pour que nous puissions aller de l'avant et vivre avec une bonne conscience. La conscience peut être notre ami ou notre ennemi, hein, je le dis au passage, et nous nous apercevons qu'elle peut être manipulée par la chair et par l'ennemi, par le diable, par le malin. Dieu utilise notre conscience, ce petit gendarme intérieur, oui, et il fait le service d'ordre et il est le gardien de notre paix, le gardien de la paix. Vous savez, quand on n'a rien à se reprocher, même si notre conscience nous condamne, parce que quelquefois, nous nous condamnons nous-mêmes à tort, et il faut le dire dans ce sens-là. Il y en a qui, finalement, n'écoutent rien de leur conscience, et puis il y en a d'autres qui l'écoutent un peu trop. Et ils sont malheureux, en raison de leur perfectionnisme. Mais celui qui est le parfait, mais c'est Jésus, c'est pas nous. Alors, mesdames, parce que c'est souvent un peu le problème des dames. Je pense, ah, mais je connais, je suis marié, bien sûr, je sais comment ça se passe. La vaisselle et ceci, cela, le balai, il ne faut pas qu'il y ait de poussière, etc. Bon, excusez-moi, je suis en train de dérailler, là. Non, mais je blague. Mais une chose, c'est vrai que quelquefois, le perfectionniste, il y en a chez les messieurs aussi. Hein. Oh, c'est terrible, hein, la cravate et tout ça, le repassage des chemises, ils sont pas contents, etc. Ben oui, alors bon, on arrête. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu utilise ce petit gendarme, finalement, à l'intérieur de nous-mêmes, et lorsque nous sommes dans une attitude moyenne, normale, naturelle, mais on ne peut que récolter la paix.
Amen.
La paix avec soi, mais la paix avec les autres. Hein. Parce que le perfectionniste, ça peut justement déclencher des guerres. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. Alors Dieu parle par sa parole, par son esprit, et aussi par les conseils d'autrui. Mon frère, ma sœur, mon ami, qui vient me dire, écoute, hein, t'es sur la mauvaise voie, fais attention, t'es en train de déraper, etc. Puis on se dit, bah non, c'est mon affaire, hein. Je fais ce que je veux. Alors Dieu parle de différentes manières. Et les caractéristiques de la conscience, si nous décortiquons le mot, c'est du latin conscientia, con, exprime, avec, être ensemble. Savoir avec une connaissance partagée. Voir ensemble. Et skir, conscience, c'est connaître. Et c'est synonyme d'être en accord avec qui et avec quoi. C'est ça. Dans Romains, parce que c'est une lettre qui a été écrite pour nous, dans Romains chapitre 2, il est dit ceci, c'est un véritable déchirement, et Paul en effet, eh bien, nous l'explique. Et il y dit ces paroles, versets 14 et 15. « Quand les païens, les non-chrétiens, qui n'ont point la foi, ou la loi, pardon, font naturellement ce qui est prescrit, ou ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. » Alors, Dieu n'a pas attendu que nous soyons chrétiens pour nous dire « tu as une conscience, hein, et tu dois fonctionner avec ça ». D'ailleurs, les premiers péchés dans le jardin d'Éden, c'est la conscience qui a parlé. Hein. Ils étaient bien conscients. Hein. Quand ils se sont aperçus qu'ils étaient nus, qu'ils étaient dépouillés, et à ce moment-là, ben, ils se sont couverts. Ils ont pris le manteau, finalement, et bien là, pour essayer, mais ça ne servait pas grand-chose. Hein. Alors, il est parlé des païens. Alors, à ce moment-là, quand ils vivent la loi, il nous est dit que les païens montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage tout simplement, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Dieu nous a dotés de quelque chose de formidable. Alors on peut tous se tromper, on peut tous faire des erreurs, on peut tous marcher à côté du chemin, mais quand on connaît un tant soit peu ce que Dieu nous dit pour notre bien, notre bonheur et notre éternité, alors à ce moment-là, ne tournons pas le cou à la conscience, parce que même les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu ou qui ne veulent pas Dieu, il y a là, à l'intérieur, tout être humain. Et ça, c'est le privilège de l'homme, hein, quelque part. Les animaux fonctionnent avec un instinct, nous fonctionnons avec l'instinct, ça c'est sûr. Hein. Malheureusement charnel, souvent charnel, mais nous fonctionnons aussi avec une conscience. Vous savez, quand le lion est en train de manger une gazelle, il ne fait pas sa prière avant de la manger, en disant « est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas mal fait hein. ?» C'est son ventre qui parle, hein. Il ne culpabilise pas. Hein. Alors, le rôle de la conscience maintenant. Elle accuse ou elle excuse. C'est ce que nous avons lu dans Romains. Excuser, c'est se défendre. Elle juge sans appel et elle est impartiale. Son verdict est irréfutable et ne donne pas de raison. Elle ne nous donne pas d'explication. On est culpabilisé, on est malheureux, mais elle ne donne pas d'explication. Les explications, on les a déjà avant, à travers ce que, que l'Écriture nous donne, et à travers l'action du Saint-Esprit pour nous dire là, c'est bien, là, c'est mal, tout simplement. Elle se contente de dire ce que nous lisons, ce que nous entendons, pour convaincre, et elle n'est pas subjective, elle est objective. Ce sont les faits, tout simplement. On juge souvent sur des paroles, et puis on est en train de se balader dans toutes sortes de hein, de ressentis, d'émotions, de sentiments, mais ce n'est pas ça. Elle est objective. On pourrait dire que la conscience est le sixième sens de la nature des hommes. C'est une conscience supérieure. Elle n'est pas primaire, comme on parlait tout à l'heure par rapport aux animaux, et fait de nous des humains. Et je vais terminer par un exemple. C'est l'exemple encore, on va revenir à David, qui disait « Mais purifie-moi, Seigneur, donne-moi un cœur pur, purifie-moi avec l'hysope et voilà, toutes sortes de choses. » David, c'est l'histoire du dénombrement. Ça vous dit quelque chose, l'histoire du dénombrement ? Eh bien, ça nous met finalement, eh bien là, si vous voulez préciser la définition de la conscience, c'est le résultat de la connaissance du bien et du mal, je répète, hein, de notre responsabilité, de ses conséquences et de ses actes, de nos actes, pardon. Ce texte, vous le connaissez. Dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 10. David sentit battre son cœur, il a eu un cruel ressenti et il était culpabilisé à mort. Qu'est-ce qu'a fait David ? David, c'est l'ami de Dieu, celui qui a toujours obéi au Seigneur, qui a véritablement fait des choses extraordinaires pour Dieu. Il avait un amour brûlant pour Dieu. Et puis un jour, il perd la tête. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Il regarde une femme, il la convoite, il la prend et il fait tuer son mari. Voilà, hein, c'est pas très léger, c'est quand même une sacrée histoire, hein, ça. Et pendant, quand vous lisez le psaume 32, il dira « Mais il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur de moi. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je ne pouvais plus dormir la nuit. » Et il a menti pendant une année, d'après les commentateurs bibliques, pendant une année. Et David, qui était au milieu de son palais, tous ses sujets, eh bien là, le savaient, ça. Parce qu'il l'avait tout simplement caché, mais tout le monde le savait. Et le problème dans cette affaire, c'est qu'il ne voulait pas le dire. Et il ne voulait pas avouer, finalement, ce qui lui était arrivé. Alors, je vous ai parlé de 2 Samuel 24 et 10. Il est dit ceci, cette parole, au verset 10. « David sentit battre son cœur, et après qu'il eut fait le dénombrement du peuple, il dit à l'Éternel, et ça, il faut avoir le courage de le faire, hein. Il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela, mensonge, meurtre et adultère. J'ai fait cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi en insensé. » Qu'est-ce qui a parlé à ce moment-là ? C'est sa conscience. Et il a résisté. Il était là à vouloir encore maquiller les choses. Mais il ne pouvait plus supporter sa conscience. C'était là pour lui dire, mais ça ne va plus. Ça ne va plus, David. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu as perdu la tête. Tu t'es égaré. Ce sont des choses que quelquefois on a ressenties lorsque nous avons fait des grosses bêtises. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais il demande pardon. Et Dieu va lui pardonner. C'est pour ça, mes amis, même si votre conscience vous persécute et qu'elle a raison, elle est là pour préparer votre salut. Oui, parce qu'elle veut vous amener finalement à prendre conscience, à demander pardon et à repartir sur une nouvelle voie. Amen. On a souvent finalement condamné les chrétiens avec nos doctrines bibliques, Ancien Testament, quelquefois Nouveau Testament, parce que ça, il ne faut pas l'oublier non plus, eh bien, à faire des gens qui avaient péché, des gens qui se croyaient irrécupérables. Dieu pardonne.
Amen. Amen.
À la croix, il nous est dit que Jésus a été notre substitut, il est passé à notre place, il est mort à notre place, il a expié nos péchés. Moi, je le crois. Vous devez aussi, si vous le voulez, le croire. Amen. Alors à ce moment, voilà, il vous rend la liberté.
Amen.
Et vous revivez une autre vie nouvelle, c'est une forme de nouvelle naissance en quelque sorte, hein. Ah, le pauvre David, il sentit battre son cœur. Je termine. Les différents types de conscience. Avoir une bonne conscience et le conformisme ambiant. Nous avons entendu une prophétie ce matin où nous étions mis en garde contre le monde. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Jésus dit dans la prière sacerdotale, il dit ceci, « Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de le préserver du mal qui est dans le monde. » Alors on arrête avec toutes les spéculations, ouais, de culpabilité et toutes sortes de choses. Voilà. Type de conscience, de conformisme ambiant. Dans tous les domaines. Il y a une odeur dans ce monde qui n'est pas bonne. Hein, elle a commencé dans le jardin d'Éden et elle se poursuit. Et puis j'ai l'impression qu'elle prend de plus en plus d'importance. Un autre type de conscience, c'est quand tout le monde ment. Il nous est dit que le monde est menteur. Que l'homme est menteur, pardon. Que l'homme est menteur. Alors quand on est dans une ambiance de mensonge, on a tendance finalement à prendre la couleur du mensonge. Ça, c'est vrai. Ou tout simplement la facilité de recourir au mensonge incognito. Et ça, c'est les dieux démons qui sont venus du jardin d'Éden quand le serpent a dit à Ève, mais Dieu aurait-il réellement dit ? C'est le doute. Oui, et elle s'est mise à douter à ce moment-là. Alors le doute, je le dis à chaque fois que je prêche sur le doute, c'est le différentiel entre le haut et le bas. Si vous surmontez le doute, vous allez plus haut, vous l'avez vaincu, et vous devenez plus fort, en tout. Mais par contre, si vous effondrez dans le doute, vous allez descendre encore plus bas, le haut et le bas. Et puis, c'est le monde du travail dans lequel nous vivons, et des affaires, le mensonge, et nos intérêts. Quelquefois, on dit, c'est un petit mensonge. Y a-t-il des petits et des gros mensonges ? Non, le mensonge, c'est le mensonge, tout simplement. C'est l'honnêteté dans la famille. Ou quelquefois, et bien là, et on comprend qu'il y a des familles dysfonctionnelles. Parce que quelque part, on a tellement pris l'habitude, et si véritablement l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, n'a pas fait véritablement, on n'avons pas laissé l'œuvre du Saint-Esprit se faire, alors à ce moment-là, ça déborde sur la famille. Mari, femme, parents, enfants, et toutes sortes de choses semblables. Et je peux vous dire que ça vous met une ambiance. Alors on comprend qu'il peut y avoir beaucoup de divorces dans notre monde. Ce sont les tricheries dans les études. Ah ouais, un diplôme, c'est quelque chose. Mais il y en a qui sont partis sur, finalement, et bien là, des pots de banane avec ça. Parce que vous vivez avec quelque chose qui a été complètement dénaturé. Et vous avez fait croire que finalement, et bien les choses étaient bonnes, alors que vous avez triché, tout simplement. La tricherie, ça fait partie, justement, et bien là, d'une œuvre réussite tronquée. Il y a l'honnêteté entre les chrétiens. Entre nous. Normalement, on devrait avoir des relations où on doit se respecter les uns les autres. Il ne pense pas comme moi, mais il n'est pas obligé de penser comme moi. Et moi, je ne suis pas obligé de penser comme lui, mais je le respecte. Et il y aurait beaucoup moins de problèmes, quelquefois, dans les communautés. Ben oui, Surtout quand il s'agit des choses fondamentales et essentielles. Ben, on est d'accord, Jésus est notre sauveur. Il nous a sauvés, il a pardonné nos péchés. Mais quelquefois, il y a des petites choses comme ça qui se baladent de tous les côtés, on sent bien que... Et ça fait des drôles de divisions, des choses qui sont terribles. Donc l'honnêteté entre chrétiens, c'est-à-dire nos relations entre nous qui sont quelquefois, un petit peu explosées, il faut le dire. Où l'on cache nos jardins secrets pourvu qu'ils ne découvrent pas qu'eux. Mais on n'est pas parfaits les uns et les autres, ça c'est sûr. Puis moi je ne veux pas fouiller dans la vie des autres, ça ne me regarde pas d'ailleurs, Mais par contre, si je sais une chose, au lieu d'aller le prendre et le pendre par les pieds au plafond et puis essayer de lui faire sortir, ce qui ne veut pas dire, mais non, moi je prie pour lui, pour que véritablement il en prenne conscience. Conscience. Et c'est le Seigneur qui va faire son œuvre, c'est pas moi. Autrement, ça ne sert à pas grand-chose. Nos jardins secrets, et c'est vouloir se faire passer pour ce que l'on n'est pas vraiment. Alors, gendarme de la conscience en éveil. On pourrait donner peut-être cette conclusion et quelques mots. La conscience, c'est qu'elle est. Elle est la fenêtre de l'âme ouverte. On voit véritablement beaucoup mieux. Elle éclaire. Elle éclaire la vie intérieure. Elle laisse entrer le jour de Dieu. J'aime bien l'expression. Le jour de Dieu qui vient en nous. Elle est aussi le miroir. Qui ne s'est pas regardé dans un miroir ce matin ? Moi, j'ai passé 3 heures, je me suis levé à 5 heures du matin pour faire mes cheveux, ma barbe. Oui. J'ai tendance à dire que les dames sont peut-être beaucoup plus fidèles au miroir tous les matins, non ? Ma femme me dit quelquefois, quand je descends du lit, elle m'a dit, va te coiffer, je reste là jusqu'à midi avec des cheveux, comme ça. Alors bon, elle ne veut plus sortir avec moi, mais c'est pas grave. Alors, le miroir, eh oui, je me regarde dans un miroir et je vois qui je suis. Et quelquefois, je dois, ce n'est pas la conscience, mais les bonnes manières m'obligent à dire « prends un peigne et puis peigne-toi, ça sera mieux ». Voilà, tout simplement. Le miroir, quand le sens moral s'obscurcit, c'est-à-dire la lumière divine s'éteint et devient ténèbres. Vous connaissez la parole de Jésus dans le sermon sur la montagne ? Il est parlé, tout simplement, et bien là, de « si ton œil est saint, tout ton corps sera saint ». Ouais. Par contre, si ton œil est malade, tu vas avoir des préjugés, tu vas avoir toutes sortes de choses, parce que tu crois que tout le monde, finalement, est comme toi. Alors à ce moment-là, redonne-toi une bise à jour. Bon, on pourrait peut-être dire de cette manière. Parce qu'on devient aveugle, on a des tâtonnements, et comme dit le livre du prophète Ésaïe, c'est un homme qui marche le long d'un mur. Alors marcher le long d'un mur, c'est peut-être voir ce qu'il y a sur un côté, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a de l'autre côté. C'est un mur. Voilà. Le bon usage, l'affirmation, et je reprends le texte que nous avions lu tout à l'heure, « Approchez-vous de Dieu, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, conscience altérée, conscience malade ou conscience en bonne santé. » La conscience, les conflits de la conscience, c'est Paul qui nous en parle de Romains chapitre 7. « Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. » C'est comme une dualité, c'est comme un tiraillement. Mais Paul l'avait vécu. Le grand apôtre Paul savait ce que c'était. La dualité de la conscience. Et ça rend malade. Alors à un moment donné, il va découvrir qu'il y a une solution. Il dira « Béni soit Dieu, gloire à Dieu, qui quelque part eh bien, est venu me donner maintenant une autre façon de vivre, la conscience purifiée. Béni soit Dieu, dira-t-il. » Parce que si nous voulons demander l'aide au Seigneur, eh bien nous finirons par lui ressembler. Et nous le verrons, alors pas avec nos yeux charnels, mais nous le verrons tel qu'il est, et nous régnerons avec lui. Que Dieu nous bénisse.
Amen.
Que Dieu nous donne sa grâce.
Amen.
Nous allons prier quelques Amen. Instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que quel sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui est difficile. C'est un sujet formidable. C'est un sujet extraordinaire. Mais c'est un chemin périlleux. C'est un chemin dangereux. Alors nous voulons être véritablement avec notre conscience. Nous voulons faire de notre conscience notre ami. Et nous savons que celui qui nous conduit dans cette amitié, c'est le Saint-Esprit de Christ. Alors tu bénis mes frères et mes sœurs. Aide-nous, Seigneur, parce que la conscience est quelque chose, c'est comme un différentiel. C'est comme quelque part, eh bien, Seigneur, ce qui régule tout. Et nous savons qu'elle est, elle produit de la paix. Elle produit de l'amour, elle produit véritablement de la bienfaisance et de la bienséance. Oui, Seigneur, et nous te louons et nous te bénissons pour ta parole. Moi, visite mes frères et mes sœurs de Redon. Accorde-leur ta grâce, Seigneur. Et donne-nous, Père éternel, de faire de ce sujet que quelquefois nous négligeons dans nos prières. Donne-nous de soigner notre bonne conscience. Oui, Seigneur. Et si nous avons une mauvaise conscience, donne-nous de pleurer devant toi dans les prières où nous te demandons ton secours et là tu vas nous changer, tout simplement. Et ouvre la porte, Père éternel. Ouvre la fenêtre. Ouvre véritablement notre cœur et nous verrons le jour de Dieu. Merci, Seigneur. Amen.
Amen.